cause du peuple.
Voilà, c'est ça, exactement.
Vous commencez une période de composition avec Léo Ferré, tout à fait inédite.
Oui.
Comment percevait-il la pop music?
Ben, je vais vous dire la vérité, lui-même ne l'apercevait pas tellement, mais il avait un directeur artistique chez Barclay qui nous adorait, qui venait à nos concerts et qui s'occupait de lui. Malheureusement, le nom de cet homme, je m'en souviens plus. Mais lui nous adorait, donc le directeur artistique, et il nous a fait rencontrer Léo Ferré. En lui disant, ça serait bien Léo que tu fasses une tentative avec un groupe comme ça, ça va t'amener un son nouveau. Et Léo, au départ, était pas très très, était pas très très partant. Hein. Et puis bon, on s'est rencontrés, il a vu que bon, parce que vous savez, dans les orchestres de ce qu'on appelait les orchestres pop de l'époque, il y avait un petit peu à boire et à manger, c'est-à-dire il y avait vraiment des gens qui connaissaient trois accords de guitare, ce qui voulait pas dire qu'ils étaient mauvais, mais bon, ils amenaient une contribution à la pop musique, mais pas à la musique en tant que telle, quoi. Voyez. Donc, bah Léo, il se méfie un petit peu justement de ces musiciens qui auraient pu être un peu éphémères, quoi. Et en fait, bon, c'était pas notre cas. Nous, on était tous des musiciens confirmés. On avait fait, pour plusieurs, on avait fait le conservatoire. Donc, on était vraiment des gens qui connaissions la musique, quoi. Voilà.
C'est le début d'une période, la période du texte parlé et dit, où Léo se débarrasse de la fonction mélodique de la musique.
Oui, un petit peu, ouais.
Oui. Et vous participez, bien sûr, à l'écriture de l'album phare La Solitude.
Oui.
Comment en fait avez-vous accueilli cette nouvelle écriture?
Bah pour nous, en fait, nous on amenait pour Léo, on amenait ce qu'on connaissait, c'est-à-dire c'était tout le côté surtout rythmique des choses sur lesquelles il s'insérait lui, aussi bien chanter que parler. En fait, c'était en quelque sorte c'était presque un début de rap, hein, puisque lui il amenait des textes parlés. Mais rythmé, parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une certaine syntaxe pour correspondre à des phrases musicales qui, elles, étaient derrière. Donc, c'était en fait une sorte de rap, et nous, on amenait tout le côté rythmique, quoi.
Vous faisiez partie de cette jeunesse et de cette pop musique que Léo a chanté dans l'album?
Bah, je pense, oui, alors c'est partie intégrante, oui, puisque, bon, on était un groupe connu, qui vendions des disques, qui faisions les couvertures des best rock and folk de l'époque, voyez, bon, on était le groupe un peu, on fait partie des quelques groupes phares français, quoi, de l'époque.
Et vous êtes parti sur toute une série de concerts en France?
Oui, 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 ça a été formidable, d'ailleurs, parce que là, ça a été vraiment... quelque part, il nous a structuré parce que, en tant que groupe, il y avait beaucoup de discussions internes sur ce qu'on allait faire. Parce qu'avec Léo, nous donnait la direction. Après, nous construisions derrière lui. Mais lui, il nous donnait la direction. Et ce qui, quelque part, nous a fait progresser. Parce que là, il y avait beaucoup moins de discussions internes. Il fallait aller dans le sens de Léo Ferré. Et c'était, pour nous, je pense que c'était une expérience très, très enrichissante.
Est-ce que ce sont des concerts que vous avez sentis agités?
Ah oui, 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 ça, il y avait des concerts très, très agités à l'époque. On a reçu des boulons, des bouteilles de bière, des... Non, non, ça, c'était... Léo déclenchait quand même des choses assez extrêmes, hein. C'est clair.
Vous avez ressenti cette peur dont il a parlé? Il avait peur...
Ah oui, oui, absolument, oui. On a eu plusieurs concerts, on a terminé avec les CRS, hein. C'est vrai que c'était assez chaud, assez chaud.
D'accord, alors Daniel Carlet, on va terminer l'interview par une série de questions avec lesquelles on termine toute interview, c'est-à-dire une chanson, une phrase, une couleur, un lieu et un concert. Alors une chanson.
Oh, La Solitude, hein, la chanson La Solitude, peut-être deux chansons, Le Chien, La Solitude, c'est les deux titres qui m'ont marqué le plus vis-à-vis de Léo. Alors une anecdote, La Solitude, je ne jouais pas de flûte à l'époque. Et Léo m'avait demandé, est-ce que tu peux en 3 mois commencer à jouer un petit peu? Parce qu'il y a un solo à faire dans La Solitude. Et j'ai fait le solo de La Solitude qui est omniprésent dans tout ce titre. Voilà. C'est quelques notes, c'est pas très dur à jouer, mais comme il y avait tous les Paris, entre autres beaucoup de gens de l'opéra qui jouaient dans les 10 de Léo, tout ce qui est cordes. Et moi j'avais quelques mois de flûte, j'étais quand même un peu les fesses serrées. Mais bon, Léo me l'avait demandé, j'avais travaillé très dur. Et j'avais réussi à jouer cette petite mélodie, toute bête, mais bon.
Fantastique.
Pas facile.
Une phrase.
Alors, attendez, parce qu'il faut que je m'en souvienne. Je suis un chien, mais je ne suis pas contre le fait de laisser venir à nous les petites chiennes, puisqu'elles sont faites pour ça et pour nous. Voilà, ça c'est extrait du chien, et c'est une phrase exceptionnelle.
Une couleur ?
Ben c'est Léo, c'est le violet, le pourpre, c'est des couleurs intenses, extrêmes comme ça. Voilà. Un petit peu toujours à l'avant, un petit peu l'anarchiste, c'est le rouge, c'est la violence, et à la fois la tendresse, mais bon, beaucoup pourpre et violet, voilà.
Un lieu ?
Les Halles à Paris, ce concert mythique, la cause du peuple.
Et un concert ?
Bah, c'est la même chose, c'est ce lieu avec ce concert dans les Halles qui allaient être détruites, c'est voilà, intense ce concert et ce lieu, voilà.
Daniel Carlet, merci, on va se quitter avec la solitude.
Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants. Biologiquement, je m'arrange avec l'idée que je me fais de la biologie. Je pisse, j'éjacule, je pleure. Il est de toute première instance que nous façonnions nos idées comme s'il s'agissait d'objets manufacturés. Je suis prêt à vous procurer les moules, mais la solitude. Sont d'une texture nouvelle, je vous avertis. Ils ont été coulés demain matin. Si vous n'avez pas, dès ce jour, le sentiment relatif de votre durée, il est inutile de vous transmettre. Il est inutile de regarder devant vous, car devant, c'est derrière. La nuit, c'est le jour. De toute première instance que les laveries automatiques au coin des rues soient aussi imperturbables que les feux d'arrêt ou de voie libre. Les flics du détercif vous indiqueront la case où il vous sera loisible de laver ce que vous croyez être votre conscience et qui n'est qu'une dépendance de l'ordinateur neurophile qui vous sert de cerveau. Et pourtant... L'espoir est une forme supérieure de la critique. Pour le moment, nous l'appellerons bonheur. Les mots que vous employez n'étant plus les mots, mais une sorte de conduit à travers lequel les analphabètes se font bonne conscience. Mais... le secret... La solitude, la solitude, la solitude! Le code civil, nous en parlerons plus tard. Pour le moment, je voudrais codifier l'incodifiable. Je voudrais mesurer vos danaïdes démocraties. Je voudrais m'insérer dans le vide absolu et devenir le non-dit, le non-avenu, le non-vierge par manque de lucidité. La lucidité se tient dans mon froc.
Heures avec Léo Ferré sur Divergence FM, après cet entretien que nous a proposé Cyril avec Daniel Carlet qui était saxo, violon et flûte dans le groupe Zoo. On en arrive à notre premier grand direct de la soirée avec Mathieu Ferré. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Nous sommes évidemment ravis, émus. Difficile de trouver des mots pour...
Non, il ne faut pas être trop ému parce que sinon on ne va plus s'en sortir.
En tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous à Divergence. Nous remercions Claude qui... De Radio Clapas. Et oui. Claude de Radio Clapas qui a eu...
Ancien de Divergence,
qui est venu avec vous. Nous sommes 5, 6 même autour de cette table. Il y a Claude donc, Cyril, André, Mathieu, et puis Reda et moi-même. Et puis nous allons parler ensemble jusqu'à 20h. Nous allons parler de la mémoire et la mer, de cette aventure que vous avez décidé de continuer après votre père. Continuer une œuvre colossale, celle d'éditer des livres, de rééditer des disques. Quand on va dans un magasin de disques, eh bien, on a la chance de trouver.
Pas toujours, peut-être.
Si, on a la chance de trouver des rayons remplis de Léo Ferré. On a la chance de trouver dans ces rayons des disques de Léo Ferré, mais pas simplement des disques de Léo Ferré. On trouve des morceaux d'émotions, de vie. On trouve des disques, on trouve des textes de Léo Ferré. On trouve tout ça et vous avez fait vraiment un très beau travail. En préambule, voilà, je voulais vous le dire. Je crois qu'on est beaucoup ici à partager ce sentiment que je viens d'exprimer.
C'est très gentil et ça me fait bien évidemment plaisir. Mais la chose qui pour moi est importante, c'est que moi je fais tout ça uniquement... pour l'œuvre de Léo Ferré et pas pour moi. Quoi. Moi, je suis pas là pour parler de moi. Ça n'intéresse strictement personne. D'ailleurs, j'ai pas envie de parler de moi. Moi, quand je fais ce que je fais parce que je suis complètement passionné par ce qu'il a écrit, par ce qu'il a fait, et je trouve que il est pas si bien compris, peut-être c'est le mot, hein, compris ou évalué, ou je sais pas, par les gens en général, bien sûr par les gens qui sont ici et qui écoutent cette émission en ce moment-là. Mais donc moi je fais ce travail-là parce que je pense que c'est quelque chose qui me passionne. Je fais effectivement des disques et des livres Enfin, je reproduis en grande quantité, enfin, la plus grande quantité que je peux, des œuvres qui ont été faites par Léo Ferré. Voilà, donc c'est Léo Ferré qu'il faut remercier et qu'il faut mettre en avant en premier. Après, le travail que vous faites, vous, avec Divergence FM, en faisant cette belle chose de cette émission de 24 heures, que je vous remercie d'ailleurs de faire, et j'espère que... D'ailleurs, c'est toujours du printemps, c'est peut-être un rendez-vous que vous allez donner à vos auditeurs chaque année. je sais pas, mais en tout cas, merci. Et voilà, moi je veux qu'on me remercie uniquement pour ce travail que je fais de diffusion et de technique, quoi, uniquement. Moi, je suis pas... Moi, je veux rester en arrière toujours. Mm-hmm. Moi, ce qui me passionne, c'est que quand je fais un disque, comme ça, on produit un disque ou un livre, je me dis, c'est le disque que j'aimerais trouver moi dans le magasin, que j'aimerais acheter moi. Mm-hmm. Donc voilà, je pense que les gens qui, après, sont le public réel, méritent toutes les attentions possibles. Quoique des fois, j'ai peut-être à tort, hein, l'impression que c'est donné de la confiture au cochon, mais voilà quoi.
Mmh. Vous avez, en tout cas dans ces rééditions, vous avez essayé de restituer au plus près, très fidèlement, à travers les pochettes originales, à travers évidemment l'enchaînement des morceaux tels que Léo les avait voulu.
Oui, parce que ça, un album réfléchi, produit, conceptualisé, imaginé, écrit, etc., enregistré par un artiste, que ce soit Léo Ferré ou n'importe qui, c'est... chose que personne n'a le droit après de changer. Bon, la couverture, la pochette, c'est un peu anecdotique, on va dire. Mais ce qui est important, c'est l'ordre des titres.
Et pourtant, il y en a qui le font.
Oui, je sais, je trouve ça, moi, c'est de mauvais goût, mais bon, ça, moi, je suis pas un... Moi, je suis un petit artisan qui fait ça comme ça parce que ça me plaît, et puis voilà, sinon je pourrais rester dans mes forêts, dans mes bois en Italie ou n'importe où, sur une île déserte. De toute façon, moi ce que je dis toujours, c'est que moi je connais, j'ai accès à tout ça, et donc moi ça me nourrit tous les jours. Ceux qui n'ont pas cette chance-là, bah, tant pis pour eux, quoi. Enfin, qui n'ont pas envie, parce que c'est vrai que des fois ça nécessite un effort, hein, parce que bon, c'est... Quand on est passionné comme ça par quelque chose à ce point... comme je suis moi, et je comprends qu'on ne puisse pas être passionné tout le monde comme ça, hein, parce que ça nécessite un travail, une patience, ça se cultive, ça s'entretient, c'est pas comme ça, un truc qui vous tombe comme ça. Et donc moi je fais ça parce que je considère qu'il y a des gens qui passent à côté de ça, et c'est dommage pour eux, donc je me dis, essayons de les initier à ça, puis quand j'en aurai marre, de toute façon un jour j'en aurai marre, c'est sûr, j'arrêterai, et puis je ferai autre chose, et puis voilà, quoi. Et puis tant pis pour eux, hein, de toute façon, moi...
En tout cas, les disques resteront...
Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc je peux pas...
Ah ouais, j'aurais d'ailleurs, je trouve ce rapprochement... C'est Uderzo qui doit être content parce qu'il vient de sortir un bouquin, mais
pour nous,
l'œuvre de Léo Ferré, c'est vraiment la potion magique, y a pas de problème. Mais moi, je trouve, tu me connais, Jean-François, tu sais que je suis jamais content, donc je trouve que 24 heures, c'est trop court... Et je suis presque persuadé qu'on va ensemble
non mais c'est
aujourd'hui
faut quand même pas trop là
aujourd'hui
faut quand même être réaliste, c'est formidable quoi, c'est très bien,
mais
et
Mathieu, je suis persuadé qu'ensemble aujourd'hui à Divergence FM on va trouver la 25e heure avec
moi. Ouais, bon,
donc voilà, hein, on va la trouver.
Oui
donc tu vois, 24 c'est un peu court. On y arrivera.
Dans le travail que vous avez fait, il y a un travail de réédition, mais il y a aussi Metamec. Metamec, c'est plus que avoir sorti un album qui était sorti.
Metamec, qu'est-ce que c'est? C'est déjà, moi, quand je vois des journalistes qui me disent qu'ils ont Metamec dans les mains, ils ont même pas ouvert le cellophane, qui disent alors, et le prochain inédit, quand c'est, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pour moi, inédit, c'est le grand mot, ça, inédit. Qu'est-ce que ça veut dire ça, inédit? Hein? Inédit, pour moi, inédit, c'est quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose que je ne connais pas.
Monster 89.4. Oh, on a des petits problèmes en ce moment de technique parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. J'espère qu'on va écouter. Donc j'étais en train de dire que tout le monde est en train de se réveiller. Les 10h30, c'est l'heure du café, des croissants, une bonne douche. Et puis c'est reparti pour 24h avec Léo Ferré sur donc sur votre radio, Radio Libertaire. On martèle. Les émissions habituelles n'auront pas lieu aujourd'hui, exceptionnellement, ne vous inquiétez pas, et puis restez un petit peu avec nous jusqu'à demain matin. Vous retrouverez vos émissions dimanche prochain, vous inquiétez pas. C'est pas l'État encore qui nous a fait le mauvais coup de nous interdire. De toute façon, avant les élections, je pense qu'on n'a pas grand chose à craindre avant l'année prochaine.
Que vous avez fait, il y a un travail de réédition, mais il y a aussi Metamec. Metamec, c'est plus que avoir sorti un album qui était sorti.
Metamec, qu'est-ce que c'est? C'est déjà moi quand je vois des journalistes qui me disent qu'ils ont Metamec dans les mains, ils ont même pas ouvert le cellophane, et qui disent alors et le prochain inédit, quand c'est qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, pour moi, inédit, c'est le grand mot, ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça, inédit? Hein? Inédit? Pour moi, inédit, c'est quelque chose que je ne connais pas. Quelque chose que je connais pas. Moi, Valérie, Paul Valérie, je connais pas. Pour moi, Valérie, c'est inédit, parce que je connais pas. Voilà. Même si tout est publié, connu par des gens. Donc pour moi, inédit, c'est quelque chose que je connais pas. Donc quand vous allez voir un journaliste qui vous dit qu'il veut offrir son papier parce que, bon, un album posthume de Léo Ferré, ça a dû emboucher un coin à plusieurs d'ailleurs sûrement. Qu'est-ce que c'est? Ça leur a mis un peu une curiosité qui est compréhensible. Mais voilà quoi, ils ont même pas eu la politesse de bien écouter le truc, de faire des moi dans tous les quasiment, je veux pas exagérer, mais quasiment dans tous les articles que j'ai lus, personne parlait du disque de ce qui était enregistré en soi quoi. Tout le monde parlait de je suis allé voir la famille Ferré en Italie, voilà, le Léo est toujours là, il hante la maison, il y a des photos déportées partout, oui d'accord peut-être, mais donc voilà, alors des trucs qui ne servent à rien, qui sont anecdotiques et qui je trouve ça d'une connerie rare, moi. Moi ce qui est important, comme je le dis toujours, c'est Metamec, quoi. Moi j'ai un copain italien comme Claude Conné qui s'appelle Mauro Macario, qui est le fils d'un célèbre comédien italien, comique. Et il m'a dit, mais ta mec, ça va être l'événement poétique, c'est l'événement poétique de l'an 2000. Mais personne ne va s'en rendre compte. Et aujourd'hui, je dois dire que, effectivement, quelque part, en dehors de, que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, que ça a bien marché relativement, je dois lui rendre compte, c'est vrai, il a raison, parce que les gens qui se sont mis à mec, c'est pour eux, voilà, un album posthume. Mais après, dans le fond, qui est-ce qui a été, dans tous ces pseudo-journalistes, intello, machin, touché profondément par... Et ta mec, je sais pas, il n'y en a pas beaucoup, je crois.
Découvrir Léo Ferré pour des jeunes, découvrir avec Metamec, c'est une sacrée claque.
C'est, moi, il y a des gens qui m'ont dit que, qui pensaient que c'était difficile que les gens, des jeunes découvrent mon père grâce, enfin, à travers Metamec. Je pense que c'est une erreur. Il n'y a pas de bonne façon ou de recette pour entrer dans son œuvre. L'important, c'est d'y entrer, c'est tout, quoi. Bon. Non?
Ému comme je suis, je peux pas dire grand-chose, à part que moi, je l'attendais quelque part, cet album posthume, puisque j'avais toujours refusé de voir des images en vidéo de Léo. Je l'avais jamais vu en concert. Je refusais de voir des images vidéo. Parce qu'il restait et il reste le seul homme que je pensais qu'il savait dire merde à tout et même merde à la mort et qui serait capable un jour de se lever comme ça de son lit et d'enregistrer un disque et d'aller se recoucher. Mmh. Ce qui a été fait un an après. Et bon, mais rien que le fait déjà.
Comment un an après?
Eh ben un an après que moi je pense ça quoi. Metamec est paru.
Ouais. Mmh.
Ça a été une grosse surprise pour moi. Alors bon, album posthume ou non, enfin... Ce qui contient, c'est fantastique, Metamec, c'est formidable. Mais rien qu'en soi, déjà, un album posthume, ça... En soi, c'était suffisamment puissant.
Quelque part, par exemple, Claude a été quelque part un peu, je vais pas dire, fait partie des gens qu'on fréquente, qu'on connaît, qui viennent nous voir en Italie, qui nous disent, et qui nous disent encore, que les choses que mon père a laissées comme ça, des enregistrements, genre Metamec, on n'avait pas le droit de ne pas les publier. Et effectivement, ils ont raison, mais je sais pas, des fois je me dis que vraiment... Bon, en dehors des gens comme ça qui aiment beaucoup mon père, je dois dire que je suis quand même assez déçu par les gens en général, quoi. Vraiment, je trouve que ça vole pas haut, quoi. Vraiment. Donc je me dis, pourquoi aller faire des efforts comme ça, donner des trucs comme ça aux gens? Quelque part, je me dis, bon, pourquoi pas se les garder pour nous, quoi.
Non, mais continuez. Continuez.
Oui, je sais bien. Surtout mais je continuerai, parce que c'est vrai que pour les gens, pour qui ça compte, c'est important. Mais alors après, comment dire? Bon, alors il faudrait presque dire, toi, tu mérites d'écouter, d'avoir « Je parle à n'importe qui ». Ça doit se mériter quelque part, quoi. « Je parle à n'importe qui », c'est un texte qu'a écrit mon père et dont on a un enregistrement, l'intégralité de « Je parle à n'importe qui » que mon père a mis en musique et il chante, comme ça dure une heure et plus d'une heure. C'est extraordinaire, quoi. C'est un voyage, moi, quand j'écoute ça, ça m'emporte, quoi. Mais je me dis, pourquoi tu vas faire ça? Les trois quarts des gens ou la moitié des gens qui vont écouter ça, ils vont...
Non, Mathieu, parce que j'ai couru les disquaires pendant quelques années pour trouver les éditions EPM, etc. Difficile, chez les disquaires de disques d'occasion, encore on en trouve. Moi, aujourd'hui, c'est... Enfin, mois après mois, je découvre à nouveau de nouveaux albums que je n'avais jamais pu entendre.
Donc La Mémoire à la Mer est mieux distribuée qu'EPM.
Aujourd'hui, oui.
Ça n'empêche pas que moi, il y a des gens qui m'écrivent encore tous les jours, qui me disent oui, tel disque qu'on trouve pas. De toute façon, non, ça n'a pas de fin, ça. Mais bon.
Non, c'est vraiment bienvenu, cette.
André?
Oui, non. Depuis un moment, on parle de réédition. Et le mot réédition, ça a toujours quelque chose d'un peu péjoratif, quoi. On dit la réédition, ça veut dire on ressort un truc, on a changé la jaquette, machin, pour le vendre encore et tout. Moi, ce qu'il faut reconnaître, je crois, c'est que le travail qu'a fait Mathieu dans cette réédition, c'est un travail, à la limite, la réédition est bien plus belle et mieux conçue, dans tous les sens du terme, qu'on prenne des photos, etc., que l'édition, que EPM, je pense qu'on est d'accord.
Oui, mais qu'est-ce que c'est qui est important quand on revient là? C'est pas l'objet en soi qui est important, c'est le contenu musical et poétique qui est à l'intérieur du disque, qui est enregistré, chanté, interprété par Léo Ferré, point à la ligne.
Mais
ça
nous,
pourrait être dans une boîte d'allumettes, c'est ça qui est important. Donc, après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est de construire quelque chose autour, un petit cocon, comme ça, un petit enveloppe de sympathique, d'agréable et tout ça. Mais l'important, il ne faut pas jamais perdre de vue que c'est ce qu'il y a dedans.
Oui, mais les gens vont rentrer dedans.
Oui, oh, je sais pas si ça doit être un argument pour stimuler les gens à venir.
Mais Mathieu, quand ton père montait sur scène, est-ce qu'il se posait?
Oui, mais maintenant il peut plus monter.
Oui, mais tu montes par procuration. Par procuration, c'est toi qui le fais quelque part.
Non.
Ah, ben quand tu nous donnes, mais t'as mec, tu nous donnes, c'est, tu nous donnes de sa part. Hein. Ah, moi je l'ai vécu comme ça. Hein.
Je sais pas. Wow. Ouais.
Je vous propose de faire une pause musicale. C'est un peu technique là. Si on fait une pause musicale maintenant, on va faire une pause musicale avec Moussessa et Nes Moussain, mais l'enregistrement sur le disque italien.
Ah, d'accord. Voilà.
Et on parle après, évidemment, de ce travail aussi que vous avez fait, de sortir des choses différentes.
La musica, dove era la musica? Dei salotti mostrati, da servi venerati, dei concerti segreti, dei segreti merletti. Nei tempi invecchiati da ricordi fottuti. E là che appassisce la musica, e là che abortisce la musica, noi nelle strade la vogliamo la musica, e ci verrà, e l'avremo la musica. L'avremo. Musessain, es Musain. Così deve essere, così è. Eccomi ormai da 30 anni. Eccomi ormai da 10 giorni. Eccomi ormai dalla tua colla. Eccomi ormai dalla tua fonte, da quando tiro la mia corsa nel castolano della notte, a patibolare la mia scorza, a patibolare la mia scorza. Musessain, es Musain, così deve essere, così è! Sono un albero senza età, da quando bevo sulla mia porta e dall'inverno tu mi porti di che troncare l'avvenire. Da quando nulla si divora, tranne le ombre sopra il muro, da quando tu mi servi ancora, la disfatta sul sofà, da quando tu mi servi ancora, la disfatta sul sofà. Musessain, es Musain, così deve essere, così è. Un ragno m'ha detto, buonasera, si trascinava nel crepuscolo. Da quando l'anima mi tenta verso paesi più meccanici, da quando il gozzato di musica porto il mio grugno per il mondo, un ragno m'ha detto, in fondo, quel che conta è la vera pratica. Musessain, es Musain, così deve essere, così è. Ludwig, Ludwig, sei sordo? Ludwig la gioia, Ludwig la pace, Ludwig, l'ortografia è stronza e poi è carica di superbia. Il tuo vino rosso macchia il rigo dei tuoi contrabbassi. Ludwig, rispondi. Ludwig, rispondi. Sei sordo, per Dio. Ludwig, sei sordo? Ludwig! Ludwig! Musessain, es Musain! La musica, la musica. Dov'è oggi la musica? La musica muore, signore. Credi davvero? La musica la trovi a Politecnico, Giovanni mia cara, con Boulez nel suo negozio e un ministro all'occhiello. All'occhiello. Musessain, es Musain, Musessain, es Musain. Nelle strade, la musica, nelle strade.
Retour dans ces 24 heures avec Léo Ferré. Nous accueillons Mathieu Ferré, dans les studios de Divergence FM. Mathieu, on vient d'écouter cette version en italien de votre père, Musessain, es Musain. Ça aussi, c'est un travail que vous avez fait avec La Mémoire et la Mer qu'on trouve intéressant, c'est-à-dire sortir des disques qu'on n'avait pas, par exemple, écouter en France, qu'on n'avait pas la possibilité d'écouter en France.
Je suis content et je vais rebondir sur ce que m'avait dit Monsieur EPM, un moment que j'ai déjà voir, c'est pas pour faire de la promo, c'est trop facile de parler des gens quand ils sont pas là. Donc je vais juste effectivement parler de ça parce que je ne peux pas faire autrement, parce que je dois le dire. J'avais dit à monsieur EPM, ce serait bien de sortir ce disque-là en CD, parce que c'est vrai que c'est un disque qui n'était jamais sorti en CD. Il m'avait dit, oh, si tu veux vraiment, pour te faire plaisir, pour me faire plaisir à moi, si tu veux vraiment pour te faire plaisir, on va en faire 500. Voilà. Je lui ai dit non, ça fait rien. Parce que moi, j'ai déjà derrière l'idée dans la tête de faire la mémoire et la mer depuis un certain nombre d'années. Ça a mis longtemps parce que. Donc j'ai dit non, ça fait non, je comprends, c'est trop difficile. Parce que déjà, quand on part défaitiste, voilà quoi. Quand on part, on commence à dire si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, faut faire autre chose, quoi, je veux dire. Si j'aime pas Léo Ferré, je vais pas. Ou si ça me passe au-dessus et ça me passionne pas, je vais pas. Je vais pas faire ça, je vais faire autre chose, je vais faire, je sais pas moi. Comment il s'appelle là, le mec là, chez Sony là, qui est mort là. Joe Dassin, voilà. Lui, Joe Dassin, il a l'intégrale chez Sony. Mm-hmm. L'intégrale de Léo Ferré, on l'a retiré du catalogue. Voilà. Donc voilà. Alors j'ai écrit plusieurs, nombreuses et multes fois. On te dit. Non, on ne veut pas vous le vendre, le catalogue de Léo Ferré, parce que ça fait partie du patrimoine, mais on retire le catalogue du coffret. Du coffret du catalogue.
Et c'est les années Odéon. Hein.
C'est les années Odéon, il y a quasiment important. 100 chansons. Alors quand ces gens-là... C'est pour ça aussi, moi, ça me fait chier, quoi. Je pense qu'on peut dire chier sur l'univers de la CFM. Ça me fait chier parce que, je veux dire, ces gens-là, de quel droit ils mettent ça dans un tiroir, et voilà. Mon père racontait toujours une histoire de... Mmh. Guillaume Apollinaire qui avait envoyé la chanson du mal-aimé que je pense plusieurs personnes connaissent heureusement ils avaient reçu ça chez Gallimard je crois et ils avaient gardé ça, le directeur littéraire pendant plusieurs mois dans un tiroir voilà. Alors moi quand je vois ça, ça aurait pilé bien sûr mon père et bien sûr par filiation ça m'aurait pilé moi aussi. Je me dis comment donc ces gens-là peuvent faire des choses comme ça. Vous avez peut-être monsieur Sony en direct là.
On ne sait pas, on va lui demander, on a un auditeur qui souhaitait réagir sur la sortie de Metamec. Ouais. Voilà donc voilà très c'est parti. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Qui est à l'appareil?
Oui.
Oui, qui est à l'appareil?
Jean.
Bonsoir Jean, donc il y a Mathieu qui vous écoute, vous aviez envie de réagir, alors...
Oui, je voulais réagir à ce qu'il disait par rapport au retour qu'il avait du public par rapport à son père, en disant qu'il était un peu déçu de ses faux admirateurs. Je voulais lui dire que, bon, des admirateurs, il y en a beaucoup.
De toutes sortes.
Et des gens qui ont connu la chanson et le texte au travers son père... Hein, donc avec par exemple Maire d'Avauban ou
mais Maire d'Avauban c'est pas Léo Ferré qui écrit les paroles hein.
Tu es toute nue sous ton poule et ensuite plus tard avec les anarchistes la révolte de l'adolescence et plus tard à l'âge adulte et dont les enfants connaissent à nouveau ces textes donc oui. Je voulais dire qu'il était toujours là et qu'il faut faire connaître ses textes, même si la critique ne les accepte pas. Et bon, on ne leur donne pas la primeur. La poésie est une clameur et je pense qu'il faut qu'elle soit entendue.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est tout.
Merci. Ce que vous dites, j'ai envie de dire que Cyril, tout à l'heure, en début d'interview, parlait aussi du fait qu'il avait découvert Léo Ferré il y a relativement peu de temps, que tu l'avais jamais vu en concert, et que le travail que vous faisiez dans l'édition ou la réédition de certains albums était aussi très important pour que les nouvelles générations puissent écouter et découvrir surtout Léo Ferré. Voilà.
Au-delà de ça, Léo Ferré, c'est quelqu'un qui est permanent. Et c'est de toute importance que certains, peu importe qui, mais se mêlent aussi de passer les frontières commerciales. Voilà, c'est mon avis. Hein.
Non, mais c'est. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est pas. Même moi, je veux aller bassement dans les trucs commerciaux, pour pas dire. le prix de ces disques-là. Bon, moi, j'ai voulu qu'ils soient pas trop chers. Fait pas trop cher, après, tout est relatif. Hein. Quand on aime quelque chose, il n'y a pas de prix, quoi. Hein. Mais dans la norme, dans ce qui se fait. Donc, ils sont relativement...
accessibles.
Oui, à 129 francs, ils sont en fait, voilà, c'est le prix psychologique, c'est ça.
Je parlais de, je parlais de Sony, par exemple, qui se permet de laisser les hauts en
oui,
tiroir.
Ben, oui, alors on va revenir chez eux, là. Et une seconde, et donc, pour revenir à ça, c'est
ça que,
je sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs, ça, voilà, c'est
le prix.
Le prix, oui, mais alors après, quoi, ça nous
on va peut-être passer des disques aux livres. Les livres, alors là, il y a aussi un merveilleux travail.
Ah oui, voilà, je me rappelle ce que je voulais dire. Oui. Je me rappelle, bon. Excuse-moi. Hein. Et alors, donc, 129 francs. Et ça, ça a été aussi une volonté, parce que je me rappelle que j'étais dans une FNAC. J'ai toujours un peu honte d'aller dans les FNAC. Pas parce que c'est la FNAC, parce que j'ai toujours peur qu'on me reconnaisse et qu'on m'emmerde. Parce que ça m'est arrivé quelques rarissimes fois, mais quelquefois ça m'est arrivé. Donc, ça m'embête, parce que ça m'embête. Point. Et... il y avait un garçon comme ça qui était dans le bac de mon père, comme ça il regardait, puis il disait ah oh, putain quand même 58 francs pour... c'était, on n'est pas sûr quand on est 17 ans, c'est vrai que pour ce que c'était, une boîte en plastique avec pas les textes à l'intérieur, c'était exagéré quoi. Faut pas quand même déconner quoi. Quand on sait qu'une boîte en plastique ça coûte 4 francs 50 à fabriquer, qu'après on le met à 148 francs, ça c'était pas une c'est la maison de disque qui décide hein, de toute façon. Donc ça, ça m'avait agacé. Et le mec, il avait pas acheté le disque parce que s'il coûtait 148 francs. S'il avait coûté 129, je me dis que ça aurait été peut-être un truc comme on a fait là, il l'aurait pris et puis ça, il aurait découvert ça. Et puis peut-être qu'il est passé à côté de ça. Et puis voilà. Donc.
Ouais, de toute façon, tout le monde reconnaît que le prix du disque est trop élevé, en particulier à cause du taux de TVA. Et donc toi, tu devances un peu tout ça. Enfin, tu agis en baissant le prix. Mais bon, c'est vrai que ça serait souhaitable d'arriver à rendre.
De toute façon, comme me dit Alain Macasqueur, mon ami, dit que avec qui je travaille. Me dit de toute façon, c'est vrai, et il a raison. Quand on aime quelque chose, ça n'a pas de prix. Quand on voit qu'il y a des disques de.
Oui, mais le SMIC a une limite.
Céline Troufion, ou je sais pas quoi, qui se vendent à 180 balles, ou je sais pas quoi, là, personne n'hésite à dire, ah, ben, je vais pas mettre 180 balles, parce que c'est.
Mais ton père faisait pareil,
là, ils ont pas de scrupules. Après, bon, alors on a des scrupules quand c'est quelque chose qu'on n'est mi figue, mi raisin, comme je disais.
Et tu vois, pour continuer le parallèle entrepris tout à l'heure, ton père était exigeant également sur le prix des places de concert. Il veillait, parfois, il n'était pas toujours au courant, mais il veillait à ce que les prix des places demeurent également accessibles. Donc là, tu es aussi dans la continuité.
Oui, ouais, les chiens ne font pas des chats quand ils les font les marges.
Mathieu, ces livres Testament phonographe, Alma Matrix, Benoît Misère, des textes inédits comme De sac et de corde.
Ah non, De sac et de corde, nous n'en parlons pas. Hein. Ça me donne mal à la tête tout de suite. Déjà.
Bon, alors, bon, ceux précédemment cités, c'est superbe aussi d'avoir réédité ça. Par exemple, Testament phonographe. Pour les gens qui connaissent pas ce livre, on peut dire que c'est 60% des textes écrits par votre père qui sont publiés. Combien?
Non. Là, moi, je l'ai toujours pour m'amuser comme ça, simplement.
Ah.
J'ai mis un.
Oui, mais parce que vous en avez que
j'ai
vous
mis
vous
un page.
Pas.
Non, mais même déjà, oh, pas beaucoup, un peu quand même, mais bon. Et on dépasse largement plus de 1500 pages, quoi. Et Testament phonographe, il y a 400 pages. Quoi.
Non, je parlais pas des pages, je disais.
Oui, non, mais d'accord,
mais
oui,
textes.
Oui, non, c'est pas complet, hein, c'est loin de là. Hein. Mon but, c'est de un jour publier des œuvres complètes de Léo Ferré, quoi. Je n'irai pas jusqu'à la liste des commissions, parce que ça n'a aucun intérêt, mais...
Ah, la recette de la daube...
La recette de la daube, bien sûr.
Vous connaissez la recette de la daube.
La recette de la daube, ça donnera des idées aux gens, peut-être, de cuisiner un peu chez eux, parce que je pense qu'on mange beaucoup de surgelés aujourd'hui. Donc, oui, la recette de la daube, il sera. Et bien, donc, mon but, c'est, effectivement...
Tu penses à quoi, Obispo, tout ça, les trucs?
De quoi?
Le surgelé, Obispo, Céline...
Non, je parlais dans la cuisine, dans l'alimentation réelle des gens... Dans la bouffe, quoi. Les gens, ils vont...
Tu sais que t'es au pays de José Bové, ici, hein?
Oui, mais bon, José Bové, le pauvre, il n'a pas assez de supporters, je pense. Bref. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec José Bové, de toute façon. Bref. Et donc, pour le Testament phonographe, non, c'est pas complet. Il manque beaucoup, beaucoup de choses.
Les premières chansons de Léo, vous aimeriez un jour les rééditer, ben, les années d'Odéon, par exemple.
Alors moi, l'histoire de la mémoire et la mer, c'est que ça existe donc avec tous les enregistrements de 1975 au-delà, parce qu'il était producteur, donc il était propriétaire des enregistrements. Tout ce qui est antécédent, on va dire, donc avant, j'aime pas quand je parle et puis que personne me regarde. Et donc, ça me déconcentre. Excusez-moi. Hein. Donc, il existe une loi qui s'appelle la protection légale, donc des enregistrements, qui veut dire que les enregistrements, 50 ans après leur publication, tombent dans le domaine public et tout le monde peut les publier. Donc, les enregistrements de Sony, notamment le premier qui est 1953, où on peut trouver Paris Canaille, Monsieur William, Judas, etc., le premier Rabot. Cet enregistrement-là donc veut dire qu'en 2004 tombera dans le domaine, donc dans 3 ans et quelques. Donc bien sûr que je serai le premier
à rééditer.
En pole position, on va dire. Oui. On dirait Schumacher. Oui. Donc je serai là, bien sûr, à rééditer. Oui. Donc ce sera tout pareil, toujours des CD livres. Est-ce que je considère que ça doit être comme ça fait et puis,
Est-ce que vous avez imaginé Tout Ferré, un livre qui s'appellerait Tout Ferré.
Un livre, alors pour les textes. Alors
oui, pour les textes.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, les œuvres complètes. Donc ce serait d'accord. Une espèce de pléiade, pas chez Gallimard, parce que je pense qu'ils ne connaissent pas trop bien Léo Ferré encore. Mais, donc bien sûr, à la mémoire et la mer.
Vous avez aussi sorti des magnifiques petits livres.
Oui.
Collection Les Étoiles.
Voilà, Collection Les Étoiles.
Oui.
Des textes, alors là...
Oui, alors il y en a quelques-uns qui étaient inédits, quelques-uns qui n'étaient pas inédits, et puis bon, parce que je considère que... Dans l'histoire de la mémoire et la mer aussi, il faut se rappeler, notamment dans les éditions de livres, que tout est parti sur la passion et la façon dont imprimait les choses mon père. Mon père était passionné d'imprimerie, il a imprimé un livre dans sa vie, un gros livre, on va dire un roman, qui était le roman de Madeleine, donc de sa femme. On y reviendra sur Madeleine, parce que je sais que ça a fait... c'est le fantasme, ça, Madeleine. Mais moi, ça me pose pas du tout
de problème. On en parlera à partir
voilà,
de...
Oui. Non, mais voilà, il n'y a pas de censure.
Non, moi, je censure rien du tout. Non, sauf la connerie, mais bon.
Ah oui, voilà.
Et donc...
Mémoire de magnétophone. Donc.
Voilà, Mémoire de magnétophone. C'est le seul livre que mon père a vraiment publié. Roman, quoi. Après, il a publié des petites plaquettes, des petits programmes, des choses un peu plus... plus petites, quoi, de quantité de travail, C'est toujours le même texte, bien sûr, mais c'est une nouvelle couverture, une nouvelle mise en page, au format, donc, que j'ai décidé, qui est celui de la musique souvent me programme l'amour, qui vient, en fait, du format, c'est le même format que les mémoires de magnétophone. Voilà. Mm-hmm. C'est facile, aussi simple que ça, c'est le même format. Pourquoi ? Parce que c'était mon père qui avait décidé que c'était ce format-là. À l'intérieur, les pages, quand dans une page, il y a une mise en page, c'est exactement respecté par rapport à ça, parce que c'est quelque chose que... Je voyais comme ça qu'il fallait que je fasse comme ça, quoi. Donc,
et tu respectes aussi les caractères, par exemple,
Garamond. Bien sûr, Garamond. Alors, le Garamond, on peut rester 2 heures à parler sur le Garamond.
Vous entendre, bon, on le savait, mais c'est intéressant aussi d'en parler. On se rend compte que Léo était vraiment quelqu'un de très complet. Il n'avait pas simplement envie de chanter, d'écrire, mais il avait aussi envie de publier. Et il voulait que ça soit publié d'une certaine manière, avec, ouais. Claude le disait, de certains caractères. Je sais aussi, sur un certain papier, moi j'ai un livre en grand format qui est très très à très peu d'exemplaires, très très haut. Sur un papier spécial et tout.
Alors ça, le papier, bon, c'est vrai,
pourquoi,
c'est un peu plus difficile
c'est,
à retrouver.
Mais... Il travaillait ça dans son imprimerie. C'était important pour lui de maîtriser de tout, de A à Z.
Oui, parce que lui, il utilisait l'imprimerie aussi beaucoup pour la musique. Alors c'est vrai que les gens, la musique, ça c'est le truc oublié complètement par les gens. Léo Ferré, musicien, on sait à peine ce que c'est. Hein. De toute façon, après, on écoutera, je pense, entre 9h et 11h, on a un autre petit...
Voilà, c'est ça, oui.
Quand je partirai, parce que à la fin, on écoutera un truc de musique que les gens, probablement, connaissent, mais bref. Et donc, Léo Ferré, c'est musicien. Il écrit ses orchestrations lui-même, à partir d'un certain moment. Il le faisait avant. Il a écrit ses orchestrations jusqu'à chez Odéon, en 53. Après, il a été chez des maisons de disques qui lui ont imposé des arrangeurs, des orchestrateurs pour faire des choses un peu à la mode et tout ça. Donc, il s'est laissé un peu, effectivement, guider musicalement, comme ça, on va dire. Mais c'était un drame pour lui, je pense. Bien sûr. Et donc, après, quand il a réécrit ses orchestrations tout seul, donc à partir de 73, il utilisait l'imprimerie aussi pour les parties d'orchestre. Parce que quand vous avez un orchestre symphonique de 120 musiciens avec 80 choristes, il faut qu'ils aient chacun leur partition devant le nez. Alors bon, à moins de se mettre là à la copier manuellement, partition par partition, ce qui prendrait des mois et des années, il les imprimait lui-même, donc voilà.
Ça servait aussi à ça. Des petites mallettes pour chacun des musiciens qui recevaient ça. Mais dès le démarrage.
C'est aussi très anarchiste quelque part aussi, la conception de l'imprimerie, comme ça, de pouvoir publier, d'imprimer ce que.
C'est pas très.
Je sais pas, je vous fais faire des petits micmacs là, ça me fait.
C'est pas très.
Je comprends que ça vous déconcentre.
Ça me déconcentre beaucoup.
On essaie un peu d'organiser le déroulement de la soirée. Reda a une remarque.
Oui.
Bon, j'allais dire simplement que bon, moi je connais bien l'œuvre de Léo Ferré pour l'écouter depuis plus de 20 ans. Hein, et bon, je connais pas très bien la vie privée de M. Ferré.
Non, mais ça, on s'en fout la vie privée.
Et je suis pas très étonné du fait qu'il ait eu à chaque fois une imprimerie chez lui, parce que quand on aime le verbe, on aime aussi le papier. Ceux qui aiment les livres, les conservent. Ils ont un lien d'amour comme ça avec eux. Et à plus forte raison, lorsqu'on écrit soi-même, c'est formidable.
Et puis il était passionné, il adorait. Bon, quelqu'un de très très cultivé. J'arrive difficilement à parler de lui au passé, donc excusez-moi pour l'emploi du verbe. Et puis ici, j'ai fait des petites fautes de grammaire comme ça, parce que j'ai fait mes études en Italie, donc je peux me planter des fois. Excusez-moi à l'avance.
Peu nous importe.
Oui, bon, on s'en fout. Et donc, effectivement, il était passionné par les beaux livres, les livres anciens, les trucs, tout, hein. Il avait été bibliothèque, il a toujours eu des super bibliothèques.
On sent dans Poète vos papiers, par exemple, qu'il a une culture au niveau des poètes du 15e, 16e, 17e siècle qui est phénoménale. Et ça, ce sont les gens qui aiment les livres.
Oui, c'est vrai.
C'est...
Qui aiment les livres, qui aiment un peu la poésie aussi, quand même.
La poésie, pense. Évidemment.
Ce qui est de plus en plus difficile, je pense, parce que la poésie, c'est... Moi, je trouve que la poésie... merveilleuse et quelque chose qui te fait rêver, qui t'emporte et ce qui est dommage, c'est que les gens ne le font, la poésie, ça les fait chier, quoi. Et il avait raison de dire quand il disait ça que ça les faisait chier, parce qu'il avait raison, parce que c'est la vérité, parce que ça fait chier les gens, la poésie. Mais moi, ça, je sais pas, ça me passionne et je trouve dommage pour ça, pour les gens comme ça qui sont pas, qui comprennent pas que la poésie, ça peut être quelque chose d'important pour eux. Là, on en revient toujours au même truc, hein, tant pis pour eux, et puis on peut pas non plus toute la vie leur donner à boire d'un biberon aux gens, hein. Il faut qu'ils se démerdent un peu les gens tout seuls aussi.
Oui, la poésie, c'est un petit peu le jazz des mots et...
Enfin, le jazz, je sais pas, moi je connais pas trop bien le jazz.
Hein.
Mais...
elle se décline sur une feuille de papier, elle se range d'une certaine façon.
Je sais pas, ranger la poésie, moi je la range pas trop, hein, mais... Non, moi je trouve que la poésie, c'est ça, ce qui est passionnant, c'est que chacun il trouve son truc, quoi, dedans, quoi. Chacun a son souffle qui est donné par chaque... Moi, on peut lire une poésie, toi, ça va donner un truc, moi, ça va donner autre chose qui peut être à l'opposé. Mais c'est ça qui est merveilleux. Ce qu'on ne retrouve pas dans un roman. Un roman, c'est beaucoup plus facile, on va dire. C'est beaucoup plus facile d'écrire un roman, je pense, que d'écrire de la poésie. C'est évident, plus que je pense.
Et un roman se lit de façon linéaire, voilà, alors qu'une poésie ne se lit pas d'une façon
plus,
linéaire.
C'est un film, quoi. Un roman, c'est un film, c'est un truc comme ça. C'est joli, c'est bien sûr. Mais une poésie, c'est faut quand même avoir...
De l'imagination.
Du talent, surtout, oui. L'imagination, oui, bien sûr, l'imagination fait partie de la poésie. S'il n'y avait pas d'imagination, il n'y aurait pas de poésie.
Quoi. Autant pour le poète que pour celui qui le lit.
Oui, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment la poésie, peut-être aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment
c'est ce à quoi j'en aiment l'imagination.
On reparlera de poésie tout à l'heure dans la deuxième intervention que vous ferez dans ces 24 heures, Mathieu.
Et pendant laquelle on entendra Léo, la voix de Léo, une interview de Léo Ferré.
Voilà, plusieurs interviews de Léo Ferré. Tout à fait, des interviews que tu as réalisées lors de nombreuses années. On va provisoirement se quitter. On va aller se restaurer un peu.
Ah déjà ?
Eh oui.
Ah là là.
On va se restaurer. On va se quitter sur Surpape quand même, sur quelque chose aussi. Vous nous avez offert Surpape.
Surpape.
Surpate chez
voilà,
Jean Cardon. Surpate, c'est la surboom. Hein.
Et oui, bien sûr, oui. Surpate chez
Jean Cardon.
Ça se dit
plus, hein.
Jean Cardon.
Et là aussi, vous avez réédité ce. Enfin, vous l'avez trouvé où
Oui, alors ça, c'est un disque. Ça, faut raconter l'histoire. C'est pareil, c'est chez Sony, ça. Hein. Je dois payer pour le sortir, je vous signale. Hein. Chaque disque qui est vendu, Sony touche son truc en faisant rien du tout. Bon. D'ailleurs, les ayants droit, les héritiers de Jean Cardon, Sûrement qu'ils sont même pas au courant, mais moi
je n'a pas. Et là, il n'a pas d'héritier.
Si, il a une fille, je crois. Si, il a une fille. Je suis certain. Il a une fille. Qui ne sait même pas où il est enterré, d'ailleurs.
Oui, je sais. Ouais.
Mais bon, ça, quand on enterre un père et puis on ne sait pas où il est enterré, on s'en fout. Ben, tant pis pour que ça. Voilà. Et donc Jean Cardon, oui, parce que.
Comment vous l'avez alors
Mais parce que c'est un disque, c'est le seul disque qu'a fait Jean Cardon dans sa vie. Parce que c'était, bon, bien sûr, l'accordéoniste accompagnateur de mon père pendant de très longtemps, et c'était quelqu'un que mon père aimait beaucoup. Et puis, parce que moi, je connais le disque depuis que je suis petit, et puis parce qu'il me plaisait bien, et puis parce que je trouve que c'était bien de le sortir, parce que.
Et Jean Cardon, c'est Mister Georgina.
Voilà.
Et Léo a écrit cette chanson. Pour lui, Georgina, c'est une marque d'accordéon en italien. Et cette chanson est dédiée, elle raconte la vie de Jean Cardon. Je ne l'ai pas amené là, mais j'ai une interview où Jean Cardon lui-même avait raconté ça. Mm-hmm.
Et donc, Jean Cardon, parce que c'était important pour moi de le faire aussi. Même si ma mère m'a dit, t'es con, tu vas aller payer des droits à Sony, il faut pas, mais non. Et puis, voilà. Mais maintenant, elle est contente que je l'ai fait. Non, si, pourquoi tu rigoles, Claude?
Parce que peut-être qu'elle nous écoute, hein.
Ah, ça va chauffer. Ben non, mais ça fera, tant pis. Hein. Et puis maintenant, je pense que quand même, dans le fond, elle est contente que je l'ai fait, parce qu'elle aime aussi beaucoup Jean Cardon.
Ouais.
Et quelque part, c'est un peu le... Une petite fleur qu'on amène sur sa tombe, d'ailleurs.
Voilà, et c'est un très beau, disque qui renferme 10 morceaux, je crois, 8-10 morceaux.
16.
Il y a beaucoup. Ouais. Voilà, un disque musical. Bravo, Cyril. Et là, on va terminer cette partie, Mathieu, avec le jazz band.
Ouais, parfait.
Voilà, le jazz band. Et puis nous, on se retrouve vers 21h10 pour 2 heures en votre compagnie. D'ici là, d'ici quelques minutes, tu peux nous dire ce qu'il y a au programme, Cyril?
Un quart d'heure musical, bien sûr, et la chorale des Beaux-Arts, je crois qu'on va recevoir, qui a chanté les poètes.
Voilà, alors dans un premier temps, on va avoir ton style.
C'est ton cul.
Voilà, ton style, c'est ton cul. Le scaphandrier,
c'est le cul que le cœur. Hein.
Ton style, c'est ton cul, donc, de Cyril. Le scaphandrier choisi par Julie. Tout de suite après, on va avoir André Fernandez, qui était avec nous tout à l'heure, mais qui va revenir pour un module autour... On va pas en parler maintenant, mais je crois qu'on en parlera plus tard, de la chanson à la chanteuse morte. Et puis après, on écoutera la chorale donc des Beaux-Arts qui nous interpréteront les poètes. Et puis tout de suite après, ils réagiront un peu sur les photos qui sont projetées là au 24 Boulevard Pasteur, les photos de votre père. C'est parti donc dans l'ordre, le jazz band, ton style et le scaphandrier.
Thank you.
Terre 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. Vous pouvez nous joindre au studio au 01 43 71 89 40. Nous vous répondrons. Ce n'est pas une émission en direct puisqu'elle est enregistrée. C'est une émission qui nous a été prêtée par Divergence FM, la radio de Montpellier, 24 heures avec Léo Ferré, jusqu'à demain matin, donc 9 heures. Les émissions effectivement du dimanche ont été un petit peu chamboulées pour la circonstance. Vous les retrouverez de toute façon, le programme normal de nos émissions demain matin à partir de 9h, et puis pour toute la semaine, et puis pour encore 10 ans. Minimum.